Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Salut Tony, déjà là, déjà dans le chat, formidable. On se retrouve cette semaine pour le deuxième live de la semaine, voilà, on peut se le dire. Deuxième live après le petit live de jeudi qu'on avait fait. Bah oui, les grandes courses par étapes sont de retour, les grandes courses tout court sont de retour, sans manquer de respect aux autres courses, mais vous avez compris. Et pour ce faire, eh ben, les lives sont également de retour. Jeudi dernier, c'était le feu, vous étiez une cinquantaine, on a pu causer de plein de trucs, c'était vraiment trop cool. Donc on espère que ce soir vous serez nombreuses et nombreux à nouveau pour débriefer. Ça y est, on a les résultats, on sait qui a remporté fièrement en Vanderdog ce soir, nous dit Tony. Et ben magnifique Vanderdog Tony, je rappelle que toi tu as gagné à la sueur de ton talent sur les quiz. Parenthèse fermée, on sait enfin qui a remporté Paris-Nice et Tirreno, on va pouvoir en discuter ensemble. Et il fait son retour dans les lives, alors vous me direz, il n'y en a pas eu des masses. Vous aviez pu le voir dans le chat lors des petits lives gaming de Vino Coup de Torn, mais ce soir il est bien là en chair et en voix, c'est Adri. Salut Adri, comment vas-tu?
Salut la Torn, bonsoir à toutes et tous. Bah écoute, ça va, en pleine forme. Alors un peu déçu de pas pouvoir parler des exploits de Vino Coup de Torn sur ce live, mais bon, on va se rabattre sur Jorgensen, Remco, Vingegaard et tant d'autres qui ont animé cette semaine, hein. C'est toujours super sympa de suivre ces deux courses en parallèle, à tel point que moi, il y a des fois, je mélangeais des coureurs.
De ouf.
Je me disais, ah ouais, là, à la Bora pour Hindley. Ouais. Ah non, merde, je suis en train de regarder Paris-Nice, quoi. Donc, du coup, c'est assez marrant et ça lance bien la saison. Ça y est, on y est là. On a vu les gros coureurs et les principaux leaders, déjà être aux avant-postes, gagner, décevoir. Donc, hâte de parler de tout ça ensemble. Et puis, très content de partager ça avec le chat et les auditeurs, bien évidemment.
Salut José, on espère que tu vas bien aussi. Et mais écoutez, c'est les fidèles de la première heure qui sont là. Alors, avant tout, mesdames et messieurs, je tenais à le dire, on avait parlé de quand j'avais pu fêter ma 30e bougie il y a 2 ans. Ce week-end, Adri, tu as fêté une nouvelle bougie. On souhaitait toutes et tous te souhaiter un joyeux anniversaire.
Ah, merci, c'est gentil.
Et bah écoute,
à peine plus que 30 ans aussi, hein. Voilà.
C'est ça, 25 ans, le début du pic de forme pour toi,
début
de ton prime.
Ouais, c'est ça. 25 ans, je suis plus maillot blanc. Voilà.
C'est pas grave, ça t'empêchera pas d'aller chercher le jaune.
On va essayer.
Alors, écoutez, n'hésitez pas dans le chat à nous partager ce que vous avez vécu cette semaine aussi, voilà, ce que vous avez pensé de la course, vos déceptions, tout ça, tout ça. Comme d'hab, on va s'atteler à revoir un petit peu ce qui s'est passé. Je te propose, Adri, de commencer par Tirreno, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est là où il y a eu le moins de suspense, peut-être aussi là où il y a eu le moins de fun. Alors, dans le chat, on nous dit que nous ne pouvons pas confondre, c'est l'équipe vainqueur sur les deux courses, c'est clair. Les coureurs changent. Pas tous, hein. Il y en a un, on sent qu'il est là, il est chaud. Mais par contre, il y a un leader qui est parti de la Visma pour essayer d'aller gagner avec une autre équipe. Ça n'a pas trop fonctionné. Puis il y a un mec qui est venu pour le remplacer. On se disait leader, pas leader, on ne sait pas. On en parlera juste après quand on parlera de Paris-Nice. Mais en effet, Visma qui fait le doublé. On nous parle de Remco. Est-ce qu'il fera mieux la prochaine fois sur Paris-Nice? Pareil, on abordera Paris-Nice dans la deuxième partie d'émission. On commence sans transition avec Tirreno Adriatico. Tac. Tac. On va attaquer directement par l'étape 6, hein, puisque c'est là où on s'était laissé jeudi dernier, la veille de cette belle étape. Vous vous rappelez de... dans les commentaires, Thierry a finement mis en avant que ma prédiction, mon ressenti était foiré dès le lendemain. C'est vrai. Moi, j'ai tout foiré les pronos, hein, sur cette fin de semaine. Moi, mon début de théorie, est-ce que Jonas Vingegaard laisse filer cette course cette semaine dans sa prépa suite à Paris-Nice l'an passé? Bon, le lendemain, Jonas, il a fait. J'ai bien écouté Radio Fringale hier. Non, il y a erreur. On laisse rien filer, en fait. Et Jonas Vingegaard...
Ouais, il nous habitue à ça aussi, le Danois, là, à rien laisser filer depuis quand même 2 ans maintenant.
Ouais. Et du coup, à 5-6 km du sommet de San Giacomo, qui était, on va dire, la seule grosse ascension de cette journée, parce qu'après, bon, ça remontouillait un petit peu, mais rien de méchant. Bah, il a démarré le garçon et puis il a mis 2 minutes à tout le monde. Ciao, bonsoir. Il arrive à l'arrivée avec. Alors attendez que je remette. C'était l'étape 5, pardon, excusez-moi, je me suis mélangé.
Une 12, c'est ça. Sur Ayuso et Hindley et puis une 14 sur le reste du groupe de
qui,
favoris.
Qui finalement limite pas trop mal la casse, mais bon, Vingegaard, il nous a montré que c'était le plus fort et quand il voulait attaquer, un peu à l'instar de Pogacar dans l'Estrade, Adri, il n'y avait pas grand monde pour le suivre.
Ouais, et puis surtout que là, il a mis. Enfin, il a vraiment mis une cartouche. On a vu qu'il était très bien emmené par son équipe. Et il a décidé d'y aller. Paf. Et ça a pas. Enfin, il n'y a pas eu trop de suspense non plus. On a vu. C'était qui, Hindley et O'Connor, je crois, un moment derrière.
Ont essayé un peu de s'accrocher, ouais.
En lutte, qui ont essayé, qui ont maintenu la distance. Puis après, ça s'est vite regroupé derrière. On sait qu'il est une jambe au-dessus de tout le monde quand il n'y a pas Pogacar. Et là, il l'a clairement montré, c'était hyper, hyper saignant. On pouvait s'en douter avec ce qu'il avait fait au Gran Camino. Là, la concurrence était quand même plus importante, mais ça n'a pas changé grand-chose à la fois dans sa façon de courir et dans les résultats qu'il a eus. Et puis, un cavalier seul aussi, hein, il a quand même attaqué loin de l'arrivée dans les parties les plus difficiles. On sait que c'est un très très bon descendeur, très très bon rouleur, et que ça lui fait pas peur de partir de loin. Et là, clairement, il a choisi cette option pour prendre un maximum de temps et puis s'assurer la victoire. Ça s'est joué sur ces deux étapes, hein, en général, de toute façon. Mais voilà, gros coup de force qui a mis tout le monde KO, je crois.
On peut noter que les coureurs jeunes étaient également au rendez-vous. Hein. Tim Enarensman, qu'on connaît déjà un petit peu plus, mais qui était là dans le groupe. Derrière, on a Utstebroek, qui a bien tenu aussi. Et puis Zach Deldoro, dont on va reparler sur le lendemain. Je pense que bon, pour l'étape 5, on a un peu tout dit. Hein, et derrière, un peu rebelote finalement. Hein. C'est-à-dire que... cette fois-ci, ça arrivait en montée. Il y avait une dernière ascension. Pareil, Vingegaard qui a attaqué. Sauf que cette fois-ci, on a quand même senti qu'il avait un peu plus de mal à creuser. Il finira que, entre guillemets, 26 secondes devant Juan Ayuso et Jane Lay. Derrière, Isaac Del Toro qui a super bien géré sa montée. Il nous a fait une montée façon Vino Coutante sur Pro Cycling Manager. J'y vais tranquillou au début quand vous mettez des coups de pétard parce que j'ai pas les stats, mais je suis sûr de moi. Et puis... Puis voilà, hein, finalement, l'attaque de Vingegaard qui a un peu tué le suspense rapidement, mais on a vu, un peu comme on a pu le voir, mine de rien, sur le Tour de France aussi, cette année, en début de tour, où il avait volé sur l'étape où il décroche Pogacar et il prend près d'une minute et quelques, et puis le lendemain, un Vingegaard un peu moins saignant, mine de rien, dans la répétition des efforts. Et puis, il avait déjà course gagnée, il est allé s'imposer avec quand même presque une trentaine de secondes d'avance. Mais quand je l'ai vu partir, je me suis dit, allez, c'est festival, c'est reparti, il va remettre 1:30 à tout le monde. Puis finalement, pas tant que ça.
Ouais, c'était un peu moins impressionnant que la veille, effectivement. Il a mis plus longtemps déjà hein, à décrocher Ayuso, surtout qui s'est accroché le plus longtemps à sa roue. Après, c'est toujours impressionnant ces attaques d'une minute qui posent comme ça. Par rapport à la veille dans la physionomie de course sur l'ascension, c'est la Bora là, qui avait fait un gros tempo, hein. Kamna, il a vraiment fait exploser tout le monde dans la bosse. Derrière, il restait une petite dizaine de coureurs et Hindley après a assumé, il a attaqué et puis là tout de suite ils se sont détachés un petit peu à 3 et c'est vrai que Vingegaard il a contré direct. Il savait aussi qu'il se sentait pas très bien. Il avait intérêt à contrer tout de suite pour pas que Hindley ou Ayuso aient trop le temps de se reposer après l'accélération de l'Australien. Mm-hmm. Donc c'était plutôt bien vu, même si c'était un peu loin. Après, il a pas mis 2 minutes comme, pas vu. C'est combien ? Non, 1 minute et quelques comme la veille. Mais bon, il était quand même. Il s'est employé en tout cas jusqu'à la ligne. Et oui, après, il s'est relâché un petit peu. Derrière, c'était un peu plus à bloc. Moi, je suis d'accord, moins impressionnant que la veille, mais ça reste impressionnant quand même.
Alors, dans le chat, Adri, on nous pose une question, notamment sur Juan Ayuso, avec Rosé qui nous demande qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon d'Ayuso là-dessus. Derrière, Tony qui nous parle de Ayuso et Hindley qui font une jolie course. Moi, je suis d'accord. Je pense qu'on peut presque faire un package entre Ayuso et Hindley. La première chose sur Ayuso, c'est que déjà, il remporte la première étape. Donc, on se rend compte qu'il va bien, il marche bien. En effet, on s'est rendu compte, et comme beaucoup de coureurs, lorsqu'on... Voilà, Pogacar et Vingegaard ont l'air quand même au-dessus de la mêlée, et quand ils sont vraiment très forts, c'est difficile de les battre. Mais mine de rien, on va regarder le classement général. Voilà, Ayuso qui finit que, entre guillemets, à 1,24. C'est pas tant une raclée hein, qu'il a pris, sachant qu'en plus, sur l'étape d'hier, il chute, il me semble, ou il a un problème de vélo.
Il change de vélo.
Il change de vélo, ouais, je sais plus pourquoi. Enfin, il doit avoir un problème, ouais.
Il se fait une montée à bloc.
C'est ça, avec Covid c'est ça qui le ramène. Et malgré tout, derrière, il est encore pas mal. Alors qu'on s'est dit, bon, il a dû quand même puiser un petit peu pour arriver à recoller au groupe. Et Hindley, pareil, super surprise. Vous en aviez parlé dans la preview. Poppy y croyait, avec Tiens, vous y croyez un tout petit peu moins. Et finalement, tant sur le chrono que sur le reste, alors on disait, c'est pas forcément des ascensions qui vont lui aller, ça manque un peu de longueur, etc. etc. Il est très en forme aussi. Moi, j'en tire comme. Alors, c'est les courses de début de saison, mais j'en tire quand même comme enseignement que bah, qu'ils sont là, qu'ils sont pas si mal, et que voilà, pour moi, quand tu finis à moins de 2 minutes sur Vingegaard, alors c'est une course par étape que semaine, mais quand tu finis à moins d'une minute de lui alors qu'il a fait une sacrée démonstration dans une étape, à moins de 2 minutes, pardon, c'est que t'es pas mal, et qu'il faudra compter sur toi pour le reste de la saison.
Ouais, sur Hindley, il nous avait pas habitué à faire des gros débuts de saison. Moi, c'est aussi pour ça que je l'attendais pas forcément à pareille fête sur Tirreno. On le voyait plus entre 5 et 10, voire au-delà. L'année dernière, il fait 15e de Tirreno sans vraiment être actif comme il l'a été sur cette semaine. Donc, très très bonne surprise. Je pense que ça veut à la fois dire qu'il a progressé, parce qu'il arrive... Il arrive quand même à faire des gros trucs. Il est dans une équipe où il va y avoir quand même beaucoup de concurrence chez les grimpeurs cette année. Et c'est important, je pense, pour lui, hein, dans la perspective aussi du... Il sera sur le Tour de France hein, aussi avec Roglic et Vlasov. Et je pense qu'il n'a pas envie de d'y aller en tant qu'équipier.
De faire le tempo.
voilà, et c'est vrai que bah, on parlera tout à l'heure de ce qui s'est passé du côté de Paris-Nice. Mais pour moi, Hindley a marqué de gros, gros points, à la fois surtout dans son équipe. Et ça, c'était peut-être aussi un calcul dans la préparation de sa saison. Ou en termes de gestion de pic de forme, hein, en 2022, il visait le Giro, donc c'est un petit peu différent. Mais même l'année dernière, où il avait un programme de saison quasi similaire à quelque chose près à cette année, avec l'objectif Tour de France, eh ben, il n'était pas aussi fringant début d'année. Donc ouais, attention à Hindley. Il va monter en puissance. On va le retrouver sur le Tour du Pays Basque. Donc à voir, c'est peut-être moins le type de course qui lui correspond, mais bon.
Il fait voilà, une Amstel quand même derrière. Hein. Tu vois, est-ce qu'il a pas envie de tester aussi sur des trucs où il est moins habituellement moins fort, tu vois, peut-être on sait que sur le Tour de France, il y aura des étapes qui vont un peu se courir comme des classiques ou autres. Est-ce qu'il a pas aussi envie de voir s'il peut pas performer là-dessus?
Bah, il a été habitué à les faire les années précédentes, il a jamais été trop dans le coup, hein. C'est quand même pas des courses pour lui.
Non, c'est clair.
Mais voilà, je pense qu'il fait l'Amstel pour après enchaîner Tour de Romandie et puis Dauphiné Tour de France. Donc voilà, ça va... En tout cas, ça lance parfaitement sa saison. Et puis, pour enchaîner sur notre ami Juan Ayuso, clairement c'est une grosse perf, hein. De toute façon il pouvait clairement pas espérer mieux vu le niveau de Vingegaard sur cette semaine, donc il est deuxième en faisant un chrono monstrueux sur la première étape, et puis c'est lui qui fait deux fois deuxième derrière le Danois. Il a dit dans une déclaration qu'il était le premier des êtres humains.
Oui, bon, t'as envie voilà. De... Tranquille, Juan. Hein, on sait où tu cours et tout. Enfin, genre, mec, t'es quand même à UAE et ton coéquipier, c'est Pogacar. Donc, respire, marrant. Prends un peu d'oxygène. Là.
C'est marrant, mais voilà, de dire... En fait, mais je pense que ça veut aussi dire à quel point Vingegaard à la fois écœure et impressionne tous ses adversaires. On voyait dans juste après la ligne d'arrivée, quand juste Brooks il arrive, et c'est marrant parce que à chaque fois il va donc checker Vingegaard, et puis il dit oh, you're so strong, waouh, putain, il en revient pas, en mode mais t'es tellement bon, mec, t'es tellement incroyable, t'es tellement au-dessus. Et je pense que c'est un peu ce que ses adversaires ont ressenti sur cette semaine, et puis qui ressemble depuis quand même un petit moment. Voilà.
Pour compléter, alors pas le podium, hein, mais le top 5, on a Isaac Del Toro qui finit quatrième du général à 2,20. Magnifique, Isaac Del Toro. On sait que Titien nous en avait parlé dès le début de saison. C'est un peu son chouchou en tant qu'équipier.
Attends, là, Titien vient d'arriver dans le chat. Ouais, il parle d'Hindley avec
des cœurs. Il parle d'Hindley en lettres capitales.
Ouais,
non, mais. Mais impressionnant aussi Isaac Del Toro, hein, une belle quatrième place dans un rôle d'équipier à son jeune âge. Il lui aussi confirme, hein, on en a parlé comme potentiellement la révélation de l'année en lutte pour avoir la Dresienne. Il confirme qu'il faudra compter sur lui cette année.
Ouais, il est impressionnant, on l'avait déjà vu super fort au Tour Down Under. Et là, sur une course d'un autre calibre, il confirme. Alors voilà, je pense que c'est Almeida qui lui a appris à grimper. En lui disant hey, « piano, piano » au début de l'ascension. Et c'est impressionnant à quel point il revient du coup sur les coureurs lâchés. Et ça, je pense que ça le met dans une bonne dynamique. Et il m'a surtout impressionné sur la dernière étape, là, l'arrivée au sommet, où il revient sur le groupe de contre où il y avait O'Connor, Rensman et compagnie. Et en fait, il se dit bon, allez, là, ça avance plus, j'attaque. Et il est à un moment pas loin de rentrer sur le duo Ayuso et Hindley. Hein. Je crois qu'il arrive à une dizaine de secondes. Et tous les Pidcock, Kamna, O'Connor, Jdebrooks, bon, en fait, ils étaient incapables de le suivre. Donc, il a aussi, on l'a vu hein, depuis le début de saison, un sacré jump. Et je pense que quand il aura pris de l'expérience dans la gestion aussi de ses ascensions, parce que des fois, ça vaut aussi le coup de s'accrocher un petit peu pour rester dans les roues, pour bénéficier aussi de l'aspiration sur des parties plus favorables. Et puis des fois, les groupes ralentissent un petit peu. Avec la giclette qu'il a, il peut aller gagner des belles courses si ça arrive au sprint, en boss comme ça. Donc, hyper impressionnant. Et
Ben O'Connor,
qui va faire.
Il complète ce top 5, il est là, sans être exceptionnel, il va chercher une belle place.
Il confirme ce qu'on avait vu de lui à l'UAE Tour, où j'avais trouvé très bon, même s'il avait un peu foiré la gestion de sa dernière étape, mais c'était quand même assez compliqué, il devait contrôler tout seul 10 bonhommes. Pour moi, là, il est à la place à laquelle il aurait dû être l'année dernière suite à sa saison 2022. Donc, il est en train de montrer que qu'il est passé à côté de sa saison l'année dernière, sauf sa troisième place au Dauphiné, mais qu'il faudra encore compter avec lui cette année. On va le voir sur le Giro. Ça va être intéressant aussi de le voir sur cette course, et je pense que ça va le mettre en confiance. On va voir ce qu'il va faire autour des Alpes dans un mois, mais là il a son programme italien et je pense qu'il va arriver plein de confiance au Giro, donc ça va être un coureur à suivre. Ouais.
En tout cas, messieurs, dames, avant qu'on passe sur Paris-Nice, qui a quand même l'air d'être le sujet duquel vous avez toutes et tous le plus envie de parler. Petit point réclame, déjà, si vous nous suivez là actuellement en live, n'hésitez pas à mettre un like sur le live pour qu'il soit le mieux référencé et qu'on puisse avoir un max de personnes qui nous rejoignent pour discuter vélo ce soir. Pareil, hein, si vous nous écoutez en replay, vous connaissez la chanson, c'est ça qui permet de référencer les vidéos, donc n'hésitez pas. Et pareillement, si vous nous découvrez, n'hésitez pas à vous abonner, puisqu'on a passé les 1900 ensemble la dernière fois en live, on est à un peu plus de 1900 abonnés aujourd'hui. On essaye tranquillement d'aller vers les 2000. On s'est fixé ça avant Paris-Roubaix. Ça avance bien grâce à vous, donc on vous fait confiance. Petit point réclame aussi, allez nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, pour voir les magnifiques articles qui sont faits par la rédac. Et puis, il y a la petite reine qui est sortie cette semaine. On n'a pas eu l'occasion d'en parler jeudi dernier, mais c'est cool parce qu'elle a fait ce podcast sur le vélo féminin qui a fait de belles audiences. Et ça fait plaisir de voir que vous vous intéressez aussi au cyclisme féminin, parce que pour nous, c'est important de le mettre en avant. On a enfin le temps et le personnel de le faire cette année. Et voilà, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Émission qui parle des classiques, Adri.
Exactement, émission qui parle des classiques avec un petit retour sur le Het Nieuwsblad et les Strade Bianche, et puis un avant-goût des courses qui vont arriver avec en point d'orgue le Tour des Flandres et sur la prochaine émission. Donc on va la faire normalement entre le Tour des Flandres et Paris-Roubaix pour pouvoir débriefer la course belge et faire une petite preview de la reine des classiques.
Tout à fait. Alors, messieurs, dames, on va en parler. Paris-Nice. Et comme vous le voyez, on va tout de suite parler de l'étape de vendredi. Titien nous avait dit sur cette étape, attention, elle n'est pas si facile, il va falloir se méfier, elle a l'air comme ça. On parle de l'étape de samedi et de dimanche comme des étapes où tout va jouer, mais ça pourrait se faire là. La côte de la Colle-sur-Loup, elle est dangereuse, voilà, il faut faire attention. Et ben, ça n'a pas manqué. C'est bien dans cette ascension, alors pas sur la première partie de l'ascension la plus difficile, mais derrière, qu'il y a des coups qui se sont joués, des favoris qui se sont attaqués, puis un petit trio qui a réussi à s'extirper. Un trio dans lequel on avait Mathias Kelmose, Brandon McNulty, Matteo Jorgensen, qui ont réussi à résister au groupe des favoris derrière et qui sont allés avec donc, une belle victoire de Mathias Kelmose au sprint. Mais derrière, Brandon McNulty récupérait son maillot jaune, Matteo Jorgensen se plaçait super bien et c'était les prémices de ce qui allait amener le vainqueur présent, vainqueur final de Paris-Nice dans ce trio, pour aller chercher sa victoire. Qu'en as-tu pensé de cette étape, Adri ? On va ensuite enchaîner sur ce qui s'est passé samedi et dimanche, mais est-ce que tu as été un petit peu étonné par le fait que Remco, alors qu'il était quand même bien turbulent et bien aux aguets, ne suive pas ce petit coup à 3 qui finalement sera l'erreur qui lui fera perdre Paris-Nice?
Ouais, bah il s'est foiré sur ce coup. Hein. À un moment, c'est aussi, alors pour parler de l'étape, j'ai trouvé que c'était une superbe étape, c'est une vraie étape de Paris-Nice. C'est clairement, et qu'elle a un petit pas les parcours le plus impressionnant sur le papier, mais c'est des choses où il peut, c'est des étapes où il peut se passer plein de choses, et Remco, bah il avait du temps à reprendre, donc du coup il devait s'activer un peu et puis passer à l'offensive, mais ouais, après il a la pancarte, hein, de toute façon, quand il est dans un groupe comme ça, il n'était pas. Tu peux pas suivre à chaque fois. Je pense que c'est surtout Jorgensen qui a attaqué vraiment au moment parfait. Et après, Skelmose qui a bien senti le coup en lui, sur un moment un peu de flottement qui a suivi partant, McNulty qui a suivi. Donc. Bah ouais, mais il aurait pu y aller. Après, peut-être que s'il y était allé, il se serait fait contrer par d'autres gars et qui eux seraient partis lui prendre du temps. Et puis pas de chance pour lui, c'est Jorgensen qui était quand même très très fort cette semaine, qui a pris du temps. Mais ouais, c'est clairement là-dessus qui perd Paris-Nice. En tout cas, ils sont peut-être un peu trop regardés. Ils s'est peut-être un peu trop focalisé sur les autres. Après, c'est le risque aussi quand t'es isolé, quand t'as plus d'équipiers pour rouler, et bah ça fait partie du vélo d'avoir des scénarios comme ça. Et franchement, ça a rendu la course super intéressante jusqu'au bout grâce à cette étape. Ouais.
En tout cas, Jorgensen, comme tu disais, il a bien senti le coup, mais là, il était aussi très fort, hein, parce qu'il a posé des belles attaques. On a vu le lendemain et aujourd'hui que c'était pas juste un coup bien senti, mais que réellement, il était très costaud. Alors également, ce jour-là, le leader au classement général, c'était Buitrago qui a chuté. Et on a vu que sur cette fin de tour, j'en profite pour le dire, parce que c'était quand même mon prono vainqueur sur la fin de Paris-Nice, mais il n'a pas eu de chance, je crois même qu'il a abandonné aujourd'hui l'ami Buitrago, donc voilà, on lui souhaite bon rétablissement. Est-ce que tu veux rajouter des choses sur cette étape 6, Adri, ou on peut passer directement à l'étape 7 et l'étape 8?
Non, bah rien de particulier. Voilà, on a vu que j'ai senti que Roglic était déjà pas ouf sur cette étape.
Ouais, ouais.
Et puis voilà, puis après, bah, Skelmose qui a joué avec ses compagnons d'échappée américains qui eux se battaient pour prendre le maillot jaune, et il en a profité pour les aligner au sprint.
Ouais, au vu des profils, c'était pas tant étonnant, hein, de grosses machines à rouler, pas trop de giclettes et un mec qui est quand même ultra punchy.
Et puis c'était le jeu, quoi, pour aller remporter l'étape. Donc voilà, on peut passer à cette étape modifiée.
Tout à fait. Alors, on était censé avoir une étape de 170 bornes, etc., etc. On vous en avait parlé dès jeudi, puisque Titien avait eu l'info. L'arrivée à la Madone du Tell. En plus, il y avait des gars, je crois que c'était Polo du 13, qui connaissaient bien le terrain et qui ont pu nous renseigner à fond sur cette montée. Donc, c'était vraiment top. Étape de samedi, finalement, une étape voilà, où ça allait jouer sur une ascension sèche, la Madone du Tell, bah, dans laquelle on a vu quand même les favoris s'attaquer. On a vu un Remco qui manquait un peu de tranchant pour réussir à décrocher tout le monde, bien qu'il ait essayé, réessayé, réessayé. Et puis on a vu aussi un Vlasov partir comme s'il avait eu le bon de sortir de la part de son équipe, qui a un petit peu compris que Roglic, de toute façon, serait plus capable d'aller gagner le général. Et puis voilà, dans cette ascension. Alors, on avait parlé d'Egan Bernal qui était bien. Il a connu un petit coup de moins bien. Egan Bernal, voilà, on voit qu'il y a une minute, donc ça a été un peu la fin des espoirs pour lui. Par
Je
contre,
crois qu'il était tombé un petit peu plus tôt,
oui, il a
Bernal.
chuté, ouais.
Ouais, c'est pour ça aussi que ça a été un peu compliqué.
Et derrière, ben on a vu voilà des favoris, notamment Skelmose qui avait bien fonctionné, bien marché la veille, qui était là. Matteo Jurgensen qui était là aussi. Un peu de mal à comprendre à un moment pourquoi Matteo Jurgensen n'a pas relayé direct Remco quand il a senti que Brandon McNulty, qui était leader au matin de cette étape-là, pardon, était lâché. Et puis finalement, voilà, quatre gars qui finissent derrière Vlasov qui vient s'imposer. Finalement, peut-être les hommes qui paraissaient le plus fort sur ce Paris-Nice et qui, on le verra, vont jouer la victoire finale, qui se sont joués, pardon, la victoire finale aujourd'hui.
Ouais, exact. C'était une. Ben moi, j'ai trouvé que c'était une ascension qui n'avait pas d'assez fort pourcentage finalement pour faire de
Ouais.
différence. On a vu qu'Remco, il attaquait. Enfin, les types, ils étaient au sprint, ils étaient à 40 à l'heure, quoi. Ils enchaînaient les virages en montée. Hein. Et je pense que ça aussi, il était hyper costaud. Il avait sa giclette, mais c'était pas assez dur pour qu'il puisse faire la différence sur des gars qui avaient la jambe sur cette semaine, hein, Skelmose et Jurgensen notamment. Donc voilà, ça n'a pas été extraordinaire dans l'ascension. La Soudal Quick-Step a roulé. On a vu un gros tempo imprimé, mais c'était pas, enfin, c'était juste pas fou non plus, hein, parce qu'ils étaient encore une trentaine. Je pense que Remco, il n'avait pas non plus une grosse grosse équipe autour de lui cette semaine, et c'est peut-être aussi ça qui lui a manqué pour renverser pour voilà pour renverser la vapeur hier et aujourd'hui. Donc ouais, voilà. Puis bah, Vlasov qui sent très bien le coup à un moment un peu de flottement où il attaque pour aller gagner. Donc ça, c'était bien pour lui qu'il arrive à claquer une belle victoire, parce que mine de rien, Vlasov, c'est un coureur qui a pas non plus
Ouais, il
des
en gagne
tonnes et
pas
des
souvent,
tonnes de victoires à son palmarès, hein. Il avait fait une grosse saison, c'était en 2022, je crois, où il avait gagné le Tour de Romandie. Il avait été en vue sur le Tour de Suisse, et du coup, bah voilà, c'est toujours bon pour la confiance d'aller remporter des belles victoires. Donc ouais, voilà. Après, rien de plus à dire. McNulty qui sauve son maillot jaune d'extrême justesse. On l'a senti vraiment à la limite, là, le dernier kilomètre avait l'air vraiment horrible pour lui. Donc ouais, voilà un petit peu pour cette étape.
Donc tout allait jouer sur la dernière étape de Paris, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Étape fun, on connaît, hein, et puis étape voilà, pour laquelle il y avait encore du suspense. Et aujourd'hui, on a vu que bah, finalement, les deux gars qui nous paraissaient le plus forts sur ces dernières journées étaient bien les plus forts avec Remco et Jorgensen, hein, qui se sont détachés. Alors on a vu Vlasov qui a réussi à s'accrocher quand même un petit moment avant de lâcher dans les derniers contreforts enfin les premiers, pardon, contreforts du col des quatre chemins. Et puis derrière, je pense que...
Il a pas aimé les 15%,
Non, non,
Vlasov.
c'était un peu
Non,
rude.
c'était un peu compliqué.
Et là, pour le coup, on a senti vraiment que Remco et Jorgensen, ils se sont entendus très vite. On a vu notamment quand Jorgensen est allé chercher la bonif ou autre pour éliminer McNulty définitivement. Et je pense que l'entente, c'était on roule tous les deux et en gros, voilà, on va arriver ensemble, tu iras gagner l'étape et moi je gagnerai Paris-Nice et tout le monde sera content. Et c'est ce qui s'est passé avec du coup la victoire aujourd'hui à Nice de Remco, devant Matteo Jurgensen, et puis derrière Vlasov 50 secondes, et Skelmose et Brandon McNulty à 1 minute 39, qui du coup est... J'étais un peu étonné quand même, parce que Skelmose, je pensais que cette étape pourrait bien lui convenir au vu de son profil et qu'on le verrait un peu plus longtemps. Ouais, c'est un peu le regret que j'ai pour lui sur cette étape. Alors, il faut que je retrouve le classement général. Il n'a pas été actualisé sur l'équipe où on avait toujours Brandon McNulty devant.
Je l'ai, si tu veux.
Ouais,
si
il est, que, et il n'est du coup parle. Pas sur le podium, puisque c'est McNulty qui vient compléter le podium derrière Remco et ouais. Jurgensen. Vas-y, si tu peux ouais, dire ouais, où est Skelmose.
Skelmose, il est quatrième à 2,22 et du coup, il a 35 secondes de retard sur McNulty dans la course au podium. Et ouais, je pense que il était trop juste, hein, en fait, quand Evenepoel a attaqué, c'était. Il avait pas les jambes aujourd'hui, parce que là, il était. Un peu plus du niveau de McNulty, et ils arrivent ensemble, et on l'a vu la veille, où il devait être quand même plus en forme, où il avait réussi à le distancer, et pour revenir sur la collaboration Jurgensen-Evenepoel, en fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'Evenepoel, il a vite compris qu'il n'arriverait pas à reprendre 30 secondes à Jurgensen, à la fois parce que quand il a attaqué en boss, il n'est pas arrivé à le lâcher, et aussi quand ils étaient en échappée, quand Jurgensen y passait devant en descente, clairement il était limite obligé de se retourner pour être sûr que Remco y suive, et Jurgensen a formidablement bien descendu aujourd'hui. Donc ça voulait dire que même si Remco y mettait une grosse attaque sur la dernière ascension, sur le col des quatre chemins, il aurait fallu passer avec une minute d'avance au-dessus pour pouvoir espérer avoir 30 secondes d'avance sur la ligne. Donc clairement, je pense qu'il s'est assez vite dit je vais essayer de gagner une étape, ce sera cool de gagner une étape sur Paris-Nice, là on est en train de collaborer, je vais faire deuxième, et c'est pour ça qu'il lui joue pas les bonifs au-dessus au Col d'Aise là, et c'est aussi pour ça qu'il a pas cherché à attaquer dans la dernière ascension, parce que il y avait pas d'intérêt, il préférait s'assurer la victoire d'étape.
Alors, Adri, quand on voit ce classement général final, un des deux grands favoris annoncés potentiellement comme le vainqueur finit finalement deuxième, Remco Evenepoel, et le deuxième grand favori qui était censé se disputer la victoire finale avec Remco, Primoz Roglic, finit dixième. Deux questions à te poser. La première, on va en parler, elle est dans le titre, c'est celle de Tonton Primoz qui est hors du coup. Tonton Primoz, il est hors du coup parce que les circonstances de course l'ont pas amené à, etc. etc. Ou est-ce que simplement, Tonton Primoz, il avait pas les jambes et que, alors ça peut s'expliquer pour deux raisons. Raison numéro un, il est parti de la jumbo et c'est le début de son déclin, et cette année, il va traverser cette saison pas comme un fantôme, mais comme quelqu'un qu'on voyait comme leader chez Labora et qui finalement va se muer en équipier de Jay Hindley sur le Tour de France, ou simplement il est en train de nous faire une prépa aux petits oignons, il se dit oulala, faut pas être en forme trop tôt parce que j'arrive, il arrive sur ses 35 ans je crois, Primoz, cette année, et j'aurai un shot de pic de forme cette année, il faut absolument qu'il soit cet été, donc j'y vais mollo. Je veux bien ton avis sur Primoz Roglic.
Alors je vois pas quelles circonstances de course aurait pu faire qu'il se retrouve dixième à 5 minutes s'il avait eu les jambes cette semaine.
tu vois, il lâche aujourd'hui parce que bon, voilà.
Ouais, mais aujourd'hui, d'accord, mais même avant, il était pas forcément. Alors, il était pas si loin, mais il était pas dans le coup. On le voyait sur les accélérations, il n'arrivait pas à suivre, donc. En tout cas, c'est pas hyper rassurant parce que c'était aussi là où il était attendu, et puis Primoz Roglic ces dernières années, il nous a quand même habitués à beaucoup 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 mieux quand il portait le maillot de la Jumbo. Donc le voir là, moi ça me rassure pas. Alors oui, son équipe, son entraîneur disent ses puissances, blablabla, bla, c'est les mêmes que l'année dernière, blablabla. Bla, bla. Ok, d'accord, peut-être, mais bon, ça reste de la com. Moi, ça m'inquiète un petit peu parce que Roglic, quand il court une course d'une semaine, c'est pas ça en général. Moi, je pense clairement que le changement d'équipe ne lui est pas bénéfique du tout. Puis, il manquerait plus que, on en parlait un petit peu tout à l'heure avec Hindley, qu'il y a une concurrence en interne qui commence à s'installer, puis que si Roglic, Alors, on est encore loin du Tour de France, hein, on est bien d'accord, c'est dans 3 mois et demi. Mais c'est toujours plus rassurant de finir sur le podium comme l'a fait Remco que d'être quand même à côté de ses standards comme l'a fait Roglic. Il sait se préparer pour les grands tours, donc c'est pas parce qu'il n'est pas en forme là qu'il ne sera pas en forme au mois de juillet. Mais clairement, puisque pour vouloir gagner le tour, il va quand même falloir battre Vingegaard qui a explosé tout le monde sur Tirreno-Adriatico. Il va falloir quand même progresser un sacré coup pour pouvoir le devancer. Habituellement, l'année dernière, hein, souvenez-vous, hein, on était aussi en interrogation. Hein, il faisait sa reprise sur Tirreno, oh là là, machin. Bah, clairement, il a gagné les 3 étapes qu'il fallait gagner. Il a dominé le classement général. Après, il a enchaîné Tour de Catalogne, victoire. Et puis ensuite, il est allé gagner le Giro. L'année d'avant, alors il avait fait sa rentrée sur les classiques françaises, mais première course par étape, Paris-Nice, bam, victoire. C'est inhabituel en fait de la part de Primoz Roglic d'être loin et d'être hors du coup comme ça. Voilà, il était juste. Alors, inquiétant ou pas, son objectif de la saison, c'était pas Paris-Nice, c'est le Tour de France, donc c'est pas grave. Mais voilà, il y avait de meilleures façons de commencer la saison en tout cas.
Dans le chat, on nous dit qu'il ne faut pas enterrer trop vite Primoz Roglic, on pourra s'inquiéter sur sa forme après Liège. On nous dit que c'est sa course de reprise ou encore qu'il sera prêt sur le Tour de France. Ma foi, nous verrons. Deuxième personne sur laquelle je souhaite te poser une question. Je vais t'en poser ouais, trois personnes, ça me va bien. C'est le septième du classement général. J'ai nommé Egan Bernal. Adri, est-ce que Egan Bernal est de retour? Est-ce qu'on pourra revoir Prime Egan Bernal d'ici cet été sur un vélo?
C'est en très très bonne voie. C'est en très très bonne voie sur la saison 2023. C'est vrai que moi j'ai eu. En fait, c'est hyper rassurant parce que sa saison 2023, bon, c'était la reprise avec sa grosse grosse chute d'il y a 2 ans.
Oui, il a frôlé la mort, hein, clairement.
Ouais,
Même la
non, mais clairement.
paraplégie.
Ouais. Et donc il fallait reprendre à la fois. Du rythme et puis des réflexes de course aussi peut-être de se sentir bien bien sur le vélo et puis physiquement on sait que des coureurs qui sont capables de gagner des grands tours c'est des machines enfin c'est les types c'est des Formule 1 donc déjà s'il y a un petit grain de sable ça peut enrayer la machine donc quand il arrive
c'est
des
un gros
gros accidents
caillou
comme ça ouais voilà c'est bah tu reviens pas forcément quand t'as pas fait de vélo pendant 9 mois tu reviens pas comme ça en 10 jours mais c'est vrai que bon on se disait allez là sur la Vuelta on va bien le on va le voir à l'avant hein, il va faire une belle Vuelta on l'a pas vu clairement on attendait beaucoup enfin moi en tout cas voilà, j'espérais qu'il soit un peu meilleur. Mais là, bah, il fait une rentrée très très positive, à la fois sur sa reprise. Bon, alors, si on accepte, il y avait le Tour de Colombie où il était quand même pas mal. Mais après, sur Ogran Camino, où il fait troisième du général. On l'a vu voilà, essayer de suivre Vingegaard aussi. Donc ça faisait plaisir. Je pense que là aussi, ça va lui le mettre en confiance. Alors, sur la fin de course, bah voilà, il y a la chute dont on a parlé tout à l'heure. Il était peut-être un peu émoussé. Il a fait froid sur Paris-Nice. Bah voilà, ça peut aussi, quand on est un peu plus faible, ne pas nous avantager. Mais en tout cas, je suis hyper content de ce qu'il a fait. Il va enchaîner là avec le Tour de Catalogne qui débute dans une semaine. Donc ça va être intéressant aussi de le voir sur cette course qui va également bien bien lui correspondre. Après, de là à regagner un grand tour, on voit la concurrence qu'il y a sur les courses de 3 semaines. C'est un peu tôt pour le dire. Cette année, il a son programme apparemment que la Vuelta. Donc on en saura un petit peu plus en fin de saison pour savoir si à partir de 2025, il pourra être en lutte pour une victoire sur 3 semaines.
Dans le chat, on nous dit que Prime Egan Bernal, tout de suite, c'est peut-être un peu chaud, mais qu'il va sans doute réussir à nouveau à rester avec les meilleurs, ce qu'on n'avait pas vu l'an passé, comme tu le disais. On nous dit également que peut-être que ce sera compliqué sur 3 semaines, mais que pour le moment, le format 1 semaine, c'est parfait. Donc voilà, à voir pour la suite. Troisième coureur sur lequel j'ai envie de te poser des questions, Adri, il est belge. Il y a quelqu'un qui nous a mis un Remco Lover qui nous a dit « Vous avez Godu, nous avons Remco ». Voilà, bon bah oui, 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 on doit s'incliner. Hein, on va pas...
Merci de nous le rappeler.
C'est ça, on va pas... Voilà, on joue pas dans la même cour, mais on a Lenny Martinez et peut-être que d'ici quelques années, on pourra peut-être un petit peu plus se la ramener, on verra. Ne nous portons pas l'œil. Remco Evenepoel, Titien nous l'avait dit, ne gagnera pas une course par étape World Tour cette saison. Il est battu par Matteo Jorgensen. Alors, à la pédale, pas à la pédale, c'est un peu le débat. En tout cas, quand Jorgensen est parti, Remco n'a pas forcément senti le coup. Et puis derrière, il n'a pas été capable de le battre. Que penser de Remco ? Alors lui aussi, il vise le Tour de France cet été. On sait qu'il est capable d'ultra bien se préparer. On l'avait vu sur la Vuelta qu'il a remporté. Quand il se prépare pour un objectif et que sa prépa se passe bien, le fait vert, on avait parlé notamment sur sa perte de poids avant la Vuelta, etc., etc. Que c'était un professionnel, ultra professionnel, justement, accompli et qu'on pouvait lui faire confiance. Est-ce qu'il semble loin du meilleur niveau qu'il devrait montrer quand on voit par exemple Vingegaard qui vise aussi le Tour de France et qui lui démonte tout le monde sur Tirreno, ou est-ce qu'au contraire c'est pas le même type de coureur que Remco lui sur les courses de 3 semaines ou les courses par étapes, et ben il doit vraiment être au top du top de sa forme et que du coup il n'y a pas forcément matière à s'inquiéter et que c'est pas une déception de le voir deuxième de ce Paris-Nice.
Non, pour moi c'est pas une déception du tout, et je pense qu'il, même s'il l'a pas gagné, il a réussi son Paris-Nice dans le sens où il le perd sur une erreur tactique, sur une erreur de course, donc clairement c'est aussi avec les jambes, hein. c'est pas pour dire qu'il aurait on sait très bien qu'en vélo c'est pas toujours le plus fort qui gagne, encore que reste à voir, vu l'étape d'aujourd'hui, c'était pas forcément Remco était pas forcément plus fort que Jorgensen. Après je pense oui que pour s'imposer sur ce genre de course, il a moins de marge que Vingegaard. Vingegaard, je pense pas qu'il soit à son top niveau comme il sera en juillet non plus. Sauf que même sans ça, il a une énorme marge sur ses adversaires. Remco, il a moins cette marge-là. Hein, c'est pas clairement, moi, je trouve que sur les courses à la fois de 3 semaines et d'une semaine, c'est pas Pogacar, c'est pas Vingegaard. Il y a un truc qui a pas forcément chez Remco. Mais après, il faut pas oublier que c'est son premier Paris-Nice. Paris-Nice, c'est pas l'UAE Tour. On l'a vu avec des étapes où il faut courir, c'est un peu plus tactique aussi, et où c'est pas forcément le plus costaud, celui qui va rouler longtemps devant, qui va l'emporter. Pour moi, c'est rassurant sur la forme de Remco, dans le sens où ce qu'il fait aujourd'hui, il a montré qu'il était hyper costaud quand il a fallu accélérer. Je pense qu'il n'avait pas une grande équipe aussi sur ce Paris-Nice, donc ça l'a peut-être pas aidé à certains moments. Si Landa avait été avec lui, tu peux avoir un équipier qui t'accompagne plus longtemps, et quand Jorgensen il attaque, ça roule derrière, ou ce genre de choses.
Il a parlé d'Alaphilippe aussi, Remco, là, dans son interview finale, en disant qu'il aimerait bien l'avoir avec lui cet été sur le Tour de France. On sait qu'il risque de faire le Giro à l'AF, mais est-ce que tu penses qu'en effet, ça pourrait aussi être un bon capitaine de route sur 3 semaines pour l'aider?
Carrément. Attends, Alaphilippe, il a quand même une expérience hyper solide, vu ce qu'il a fait. À la fois une expérience de ouf sur le Tour de France, hein, c'est une course sur laquelle il a brillé et qu'il connaît. Et puis, il a de l'expérience. Et c'est sûr que s'il arrive à retrouver un très bon niveau, il peut être hyper utile à Evenepoel. Donc, pour moi, il est dans ce qu'il faut faire pour arriver en forme au mois de juillet, en tout cas. Je vois pas de raison de s'inquiéter, en fait. Je vois pas de raison, vu la semaine, de se dire « Oh là là, Evenepoel, ça va être dur. » Non, parce que là, clairement, vu ce qu'il a montré, il est dans ce qu'il faut faire, et puis il n'y a rien d'inquiétant.
Très bien, dans le chat, on nous dit qu'il faut pas être trop dur avec Remco qui découvre la France, qui va monter en puissance, etc. etc. Avant qu'on enchaîne, vous êtes déjà une quarantaine sur ce live, c'est incroyable. Comme dit, n'hésitez pas à lâcher un petit like pour continuer à bien référencer le live et qu'on soit de plus en plus nombreux, ce serait top. Et puis pareil, si vous nous découvrez ou autre, pensez à vous abonner, toujours la même rengaine, mais en vrai c'est hyper important pour nous. Donc voilà, c'est comme ça qu'on se développe et ça se fait que grâce à vous. On a de nouveaux commentaires, on dit, je sais pas pour vous, mais j'ai du mal à comprendre comment au World Tour, le mec... laisse la gagne sans attaquer, il semblait plus fort en descente et même en montée, Jorgensen. Moi, mon point de vue, c'est qu'il arrive qu'il y ait des pactes entre les coureurs, Jorgensen, je pense que gagner Paris-Nice, alors il en rêvait, mais je pense qu'il se disait que ça est presque impossible avant de partir. Là, c'est possible de le faire, il n'a pas envie de tout perdre à risquer de se faire attaquer par Remco, prendre un risque inutile, avoir un coup de fringale, enfin j'en sais rien, n'importe quoi. Et voilà, et derrière on nous dit, pour moi Remco est au niveau, par contre il n'avait pas la giclette qu'il peut avoir d'habitude, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter, l'an dernier Vingegaard finit 3ème et gagne le Tour. L'argument est bon, je suis assez d'accord par Jean Gadeau, même si l'an dernier Vingegaard, c'est vrai, j'allais dire il est battu par Pogacar, mais il est aussi battu par David Gaudu, et on a vu la suite de la saison de David Gaudu.
Puis là-dessus, on a toujours tendance à vouloir tirer des conclusions au mois de mars sur ce qui va se passer en juillet, mais en fait, ça donne des tendances, des indications, mais on peut forcément pas tirer de conclusions par rapport à ça. Et l'exemple de Vingegaard qui fait troisième l'année dernière et puis qui expose tout le monde en juillet, il est très bon. Et puis juste pour revenir sur l'explication de pourquoi Jorgensen, il est plus fort, mais il attaque pas, il essaie pas de le lâcher. C'est aussi que, en restant avec Remco, Jorgensen, il s'assurait la victoire au général de Paris-Nice, qui est bien plus important que de remporter l'étape. Et il avait tout intérêt à collaborer avec Remco, qui allait rouler jusqu'au bout et lui assurer le fait qu'il n'y ait personne qui rentre de derrière. Il n'avait pas forcément d'intérêt. C'était un petit peu, tous les deux, on est gagnants, donc on roule ensemble et on coopère. Donc voilà, et si McNulty saute, c'est aussi grâce à l'attaque de Remco. Donc il y a un petit truc comme ça. Après, c'est sûr qu'il y a des coureurs qui auraient peut-être voulu le contrer ou essayer de déposer Remco dans la dernière descente. Mais,
un Slovène avec un maillot blanc, là
peut-être. Mais vu les sourires qu'il faisait, Jorgensen, à la fin, il avait clairement pas envie déjà de... C'était assez marrant, d'ailleurs, ça, de jouer le sprint à Remco. Mmh. Remco, t'avais l'impression qu'il faisait un sprint à deux pour être champion du monde. Ça, c'était, je prends plus de relais, je suis derrière, les mains en bas, clac, clac, bam. Et puis Jorgensen, il l'a un peu laissé filer. Et puis... Ouais. Et puis du coup,
il s'est mis en danseuse pour la forme, quoi.
Ouais, c'est ça. Tu vois qu'il se dit, à un moment, il se dit, bon, allez, je vais quand même me mettre un coup en danseuse histoire de pas prendre 5 secondes sur le sprint. Mais
puis il lève les bras à la fin et tout. On se rend compte que,
oui.
Franchement, je pense que Jumbo, et d'ailleurs, je vais t'en parler après, Adri, je te lancerai sur Jorgensen, mais Jumbo, au début, tu leur dis que c'est un de leurs gars qui va gagner Paris-Nice. Je pense qu'ils vont quand même sur des courses en pensant qu'ils peuvent gagner. Et tu leur disais, vous allez faire doubler Tirreno Paris-Nice. Tu aurais dit, Tirreno, oui. Enfin, je pense. Paris-Nice, ça va être chaud, par contre. Hein.
Ouais. Non, mais c'est sûr qu'après, il était. Il était costaud. Mais en tout cas, je trouve que c'est un bel exemple de collaboration pour du coup expliquer le général dans une course par étape, le général, les victoires d'étape et tout ça. Et puis encore, il n'y avait pas d'équipier dedans. Mais sinon, des fois, tu rajoutes un équipier qui roule pour son leader. Et puis voilà, je pense que ça nous est déjà arrivé à tous au moment du Tour de France. T'as un pote qui connaît pas le vélo et puis qui va te dire mais franchement le gars il roule, puis après il roule plus, il roule pour les autres, franchement je comprends pas, vas-y explique-moi, voilà. Et ça arrive qu'en juillet, hein, les résultats, on s'en fout.
Alors Adri, on va parler du vainqueur, forcément. On en parle depuis un petit moment, on en avait parlé l'année dernière, tu te rappelles, avec ce fameux « mais qu'est-ce qu'il fout sur la start list des Flandriennes alors que c'est censé être un mec qui joue des générales
?» j'avais raison.
Cette année, il part de la Movistar pour aller dans une équipe où quand t'es plutôt un mec qui a de l'avenir sur les courses par étapes, généralement derrière t'arrives à perf, il se retrouve leader. En fait, tu vois, je me dis, il a la chance par exemple qu'il n'y a pas eu un Attila Valter. l'an passé, où il n'a pas forcément, Valter a été mis en leader sur les courses d'une semaine. Là, on met Jorgensen parce que bah, y a Jonas de l'autre côté, on se dit, bon, bah, faut bien présenter quelqu'un. Jorgensen, c'est un mec qui va très fort en chrono. C'est un mec qu'on a vu capable d'être bon, puisqu'il fait quatrième de l'E3 et neuvième, je crois, du Tour des Flandres l'an passé sur des Ardennaises, quand c'est difficile, qu'il y a des pavés, que machin, que truc, enfin, sur des Flandriennes, pardon, voilà. Et on se rend compte que c'est aussi un mec qui grimpe bien, malgré sa carcasse assez imposante. Et est-ce qu'on n'assiste pas là à la naissance d'un nouveau leader qui, bah voilà, il y a Roglic qui est parti, mais peut-être que d'ici l'année prochaine ou même cette année, on va se dire en fait, quand Jorgensen il s'aligne au départ d'un grand tour, bah il s'aligne pas pour faire top 10, quoi.
Ouais, non, bah clairement. Après, bah Jorgensen, il sort pas de nulle part. Hein. Il avait déjà fait des gros résultats dès 2021. Il fait huitième de Paris-Nice. Il fait aussi des places d'honneur sur des étapes. Alors après, il y avait rien de fou. C'est là où il fait son premier Giro, mais il a que 24
ans. Il gagne
un tour
de match,
3 ans,
je crois, l'an passé.
Ouais, il y a 3 ans, il avait 21 ans. Ouais, justement. Et c'est surtout, en 2022, je crois qu'on le voit un peu sur le Tour de la Provence au début d'année, mais c'est surtout l'année dernière, en 2023, où il fait vraiment une grosse saison et puis il complète. Il gagne le Tour de Man. Il fait re-8e de Paris-Nice. Après, donc, tu l'as dit, on le voit sur les Flandriennes, là. Donc, coureur très complet. D'ailleurs, on va le revoir, là, sa prochaine course, c'est le Grand Prix E3, donc ça va être intéressant de le voir avec l'Armada Jumbo. Et puis après, il fait un super tour de Romandie, où il termine deuxième. On l'a vu beaucoup à l'avant sur le Tour de France, malheureusement pour lui, il lui a manqué un petit quelque chose pour aller chercher la victoire d'étape. Et puis, il arrive même à faire un top 10 en Chine en fin d'année, même si là, on, voilà. Pas dire qu'on s'en fout un peu, mais si, on s'en fout. et là, ouais, pour le coup, le changement d'équipe, je pense, lui a apporté ce petit truc en plus. On savait déjà que c'est pas un coureur qui sort de nulle part. On sait déjà que on savait que c'était un costaud. Il a 24 ans, donc il est encore en pleine progression. Et il a su saisir sa chance et il a aussi montré un très grand sens de la course et qui développe en participant à des courses comme les Flandriennes et sur cette attaque sur l'étape de vendredi vers la Colle-sur-Loup. C'est clairement une étape qui s'est un peu courue comme une classique dans le sens où, bah, à un moment, tu as les leaders isolés et puis ça attaque à droite, à gauche. Voilà. Donc, je pense que dans ce registre-là de coureurs de classique d'une semaine qui va aider ses leaders sur 3 semaines, il est hyper costaud et c'est un gars qu'on va voir accompagner ses leaders en montagne très très loin. Donc voilà. Après, je pense pas qu'il veuille devenir, en tout cas tout de suite, calife à la place du calife. Peut-être qu'un jour il aura sa chance sur un grand tour. À voir, c'est peut-être un petit peu les résultats qui lui manquent. Hein. Il n'a pas forcément de grosses perf, en tout cas au général sur les grands tours. Donc voilà.
Mais en 4e place classement jeune en 2022, quoi, sur le Tour de France.
Ouais. Ouais, c'est pas une référence, quoi. Enfin, il fait quoi? Il fait 20e du général.
Oui, mais c'est pas trop mal, tu vois, pour un mec de...
Oui. 20...
En plus, j'ai l'impression quand même, Jorgensen, c'est vraiment le mec... On sait où il est fort, mais il progresse là où on le sent un peu moins. Par exemple, tu vois, la montagne, j'ai l'impression que, mine de rien, il continue à progresser en montagne. Et je pense que... Là, Tony nous disait, je lui souhaite pas de finir comme Soler ou Charman pour... comparer, Soler, il n'était pas dans la bonne équipe, il n'était pas dans les bonnes dispositions. Charman, je pense que c'est vraiment son profil qui n'était pas le bon. Je pense vraiment que, à l'inverse, Jorgensen, tu sais, c'est vraiment le gars, tu le sens monter d'année en année. Tu sens qu'il y a une vraie progression qui se fait dans des domaines et tout. Et du coup, là, alors peut-être qu'à un moment, il va se taper un gros plafond, on va se dire, ah bah ok, c'était ça son plafond. Mais en même temps, ouais, tu sens qu'il est régulier, qu'il est au bon endroit, que l'équipe lui fait confiance aussi. Parce que tu vois, Cette année, ouais, il y a deux. Directement. Hein. C'est ça, il y a deux gars qui arrivent. Il y a Eusch de Brooks qui arrive. En plus, ils l'ont voulu comme jamais jusqu'au bout. Il y a Jorgensen et il y en a un qui est équipier de Vingegaard sur Tirreno et l'autre qui est, tu vois, moi, limite en début d'année. Tu m'aurais dit les deux arrivent, qui va être l'équipier sur Tirreno de Vingegaard? Je t'aurais dit Jorgensen. Et Eusch de Brooks, tu le récupères en disant lui, il a la gueule d'un leader, c'est sûr, il va être leader l'année suivante, quoi. Pas direct sur une course d'une semaine où Vingegaard ne se présente pas. Donc ouais, moi je suis content de le voir là et ça m'étonnerait pas que alors cette année il a annoncé sur le Tour de France. On verra comment ça se passe par rapport à la Vuelta. Mais tu vois, si Vingegaard reste focus Tour de France et tout, ça m'étonnerait pas que l'année prochaine. Et en plus, je pense que c'est un tour qui lui irait parfaitement bien de le voir sur leader du Giro l'année prochaine directement, quoi.
Ouais, à voir. À voir, je pense que pour l'instant, il n'y a pas encore de garantie en grand tour.
Non, ça c'est clair. Ouais, ouais, tout à fait.
Pour jouer le général, donc on ne peut pas trop se projeter sur 2025, à voir comment il encaisse les trois semaines. Mais en tout cas, c'est sûr que on en avait parlé dans les transferts, hein, que c'est un profil hyper intéressant pour une équipe. Et je pense que chez la Visma, il trouve ce truc en plus qui lui correspond bien en tant que professionnel pointilleux, qu'il avait peut-être moins à la Movistar. Enfin, c'est même sûr. Et,
ah bon?
Ouais, sans tailler la Movistar, on sait à quel point la Visma, c'est hyper, hyper précis, hyper, hyper, enfin voilà, hyper calibré et que ça correspond parfaitement à son approche du cyclisme. Donc ouais, voilà. Donc à suivre. Là, on va voir ce qu'il va nous faire sur les Flandriennes, mais c'est aussi cool de voir des coureurs avec une telle polyvalence capable de briller un petit peu partout. Ça fait plaisir et c'est et en tout cas ça va être un gars hyper hyper costaud et hyper important sur toutes les étapes. Enfin, tu l'as en équipier en grand tour, bah s'il faut frotter sur le plat, il y a pas de souci, il va faire le taf. Donc ça c'est des équipiers pépites.
On sait qu'il nous demande où va signer Mbappé l'année prochaine, mais il me semble qu'il est en discussion avec UAE. Donc,
ouais, moi j'avais vu Bahreïn. Moi.
Ah ouais,
gros contrat à la Bahreïn pour Mbappé.
Ils veulent, bah, avec Lenny Martinez.
L'aligner sur les Ardennaises. Ouais,
ils veulent faire la French Connection.
Ouais. Ils pensaient aux Flandriennes, mais ils avaient peur qu'ils volent un peu trop sur les pavés.
Ils se sont dit ce serait dommage, quoi. Après, il va y avoir des soupçons, tout ça, tout ça. Ouais, surtout qu'en plus, on sait que c'est clean le foot en termes de dopage. Hein. C'est vraiment pas un sport.
Oui.
Voilà,
bah, clairement.
Donc voilà.
Pas dopé, hein.
Non, non, bah surtout pas. Bah, attends, surtout pas. Déconne.
Surtout
arrête.
Pas. Plus il y a d'argent,
moins il y a de dopé. Attends, comment ça, un mec qui peut courir 90 minutes sans s'arrêter et faire des sprints, faire le 100 mètres en moins d'11 secondes et... Non, mais oh. Arrête.
Ouais, puis là, ça y est, il a été. Enfin, alors, j'ai pas trop suivi parce que moi, je suis pas le foot, mais il y a un truc comme quoi il a couru hyper vite là sur 100 mètres. Ça y est, on est en train de nous dire qu'il est capable de faire du 100 mètres en athlète. N'importe quoi. Non, mais n'importe quoi, ça n'a rien à voir. Mais bon, bref.
Voilà, voilà. Écoute, Adri, je crois qu'on a à peu près fait le tour.
Yes.
Et en tout cas, cette semaine, on sait ce qui arrive ce week-end, hein, donc vous allez nous retrouver très vite en émission, petite preview pour Milan-San Remo. On va essayer de sortir ça assez rapidement. Je pense qu'on s'enregistrera ça mardi ou mercredi, on vous tient au jus. En attendant, bah, merci de nous avoir suivis. Pensez à lâcher un petit like sur la vidéo pour la référencer au mieux. Pareil, si vous pouvez et si vous êtes motivé, abonnez-vous. Si ce n'est pas encore le cas, vous faites tourner la chaîne à des personnes qui ne nous connaissent pas encore. Adri, bilan, petit mot de la fin sur ces deux courses qu'on a eues cette semaine. Content, pas content, déçu, heureux. Qu'est-ce que tu en as pensé? Après, c'est Strade Bianche où on avait tous le seum.
Très content de Paris-Nice. Je me suis régalé en regardant Paris-Nice parce que c'est j'ai déjà déclaré ma flamme à cette dernière étape de Paris-Nice dans la preview, mais il y a aussi une super étape vers la Colle sur Loup et finalement c'est les arrivées au sommet qui sont les plus chiantes et voilà, mais je me suis vraiment vraiment régalé devant Paris-Nice. J'ai trouvé que c'était une course d'une semaine comme je les aime bien, avec des gros favoris qui sont un petit peu bousculés, des coureurs qu'on n'attend pas forcément, des confirmations, des gars, tu vois, il y a des gars dont on n'a pas parlé, comme le Luke Plapp qui fait une super semaine, qui confirme
Luke Plapp, tout le bien
le maillot
lui.
De leader, enfin donc voilà. Donc ça c'était super cool, et puis bon bah Tirreno, je pense que un peu déçu aussi parce que le parcours était quand même pas ouf. On a eu beaucoup d'arrivées au sprint, il en faut pour les sprinteurs, hein, y a pas de souci là-dessus, et les sprints étaient assez animés d'ailleurs, mais ouais, clairement voilà, moins hypé par Tirreno aussi parce qu'il y a pas du tout eu de suspense et
Il y en a eu après le premier chrono, un petit peu,
ouais,
jusqu'à
voilà.
Jeudi.
Voilà. Jusqu'à jeudi, mais bon, c'était un peu couru d'avance, mais voilà, on va pas avoir des enseignements pour le mois de juillet, mais ça met déjà l'eau à la bouche et on a déjà quelques petites idées avant de se plonger dans la campagne des classiques et de retrouver la plupart de ces coureurs pour le Giro. Et le Tour de France, voilà, ça, c'est toujours cool cette double semaine.
Tout à fait. En tout cas, moi, j'étais plutôt content également de Paris-Nice. J'ai eu l'impression de voir, de revoir une course à l'ancienne où t'avais pas forcément des gros profils. Où tu vois, t'avais des mecs qui étaient pas forcément des favoris de grands tours qui s'imposaient, où t'avais de la castagne avec des gars qui savaient que c'est pas les meilleurs grimpeurs et qui du coup essayent de prendre du temps sur certaines étapes. Enfin, voilà, ça m'a fait penser un peu à ce qu'on voit de moins en moins finalement sur des courses par étapes, même d'une semaine, où souvent t'as les favoris de grands tours, puis encore plus quand tu t'appelles Pogacar ou Vingegaard, qui viennent et qui laissent pas grand chose aux autres. Donc ça m'a fait bien kiffer. Puis Tirreno. Un peu déçu, que j'aurais préféré que Vingegaard mette que 26 secondes à la première étape et 1:20 hier, tu vois. On aurait eu à peine plus de suspense au vu de ce qui s'était passé au chrono. Et puis voilà. Comme dit, on se retrouve cette semaine sur Milan-Sanremo. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis ce soir. Vous étiez encore nombreuses et nombreux, plus d'une quarantaine. Ça fait trop plaisir parce que voilà, sur des lives de début de saison, on a rarement eu autant d'audience. Et comme vous le savez, l'audience, c'est ce qui nous fait exister hein, sur YouTube. Donc voilà, on est bien content de vous voir aussi présent et présente dès le début de la saison. En attendant, Adri, encore un grand rendez-vous ce week-end, et puis voilà, la saison, on peut dire que là c'est sûr, elle est belle et bien lancée.
On y est on est en plein dedans, une magnifique classique, un magnifique monument même qui arrive
le premier
le week-end prochain, le premier monument voilà qui se démarque par sa longueur de course et ses nombre de kilomètres et son ancienneté. Voilà. Non, mais moi, c'est une des courses que j'apprécie le plus et qui est à la fois, je parle de Milan-Sanremo, bien sûr, magnifique dans sa longueur et sa lenteur et son temps d'attente, et puis l'intensité de ce podio qui est absolument phénoménal, et puis ce final aussi. Donc voilà, c'est samedi, donc ça va vite arriver.
En attendant, mesdames, messieurs, pensez à vous alimenter, le froid est encore là, donc on déconne pas la fringale guette. Prenez soin de vous, on se revoit tout bientôt, pensez à vous abonner, à faire tourner, vous connaissez la chanson. À la prochaine, ciao ciao.
Salut tout le monde, ciao ciao.